deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques, sûrement.
Théâtrales, peut-être.
Inclassables, parfois.
Écrit libre.
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 Empreintes et blessures d'enfance, c'est le sujet de cette émission. L'enfance a souvent pour l'adulte le visage de la nostalgie, couleur de printemps vue de l'automne, odeur d'été en hiver, chuchotement du temps enfui à pas de loup. On oublie beaucoup, on se souvient un peu, ou l'inverse. Parmi les images de rue qui nous traversent, il en est qui demeurent vives et poignantes, comme la fin d'un film.
Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também.
Été 66. Une pointe anecdotique sur la carte, des chemins terreux pas encore de randonnée, étroits et pentus. Une terre de cultivateurs aux canassons râblés, solidement ancrés au sol. Une terre de pêcheurs à pied à temps plein ou partiel, améliorant l'ordinaire de coquillages. Ici, pas d'empotés, ni de crâneurs, juste le raclement des crocs et des râteaux en conversation. Ici, on ne creusait pas la vase à tout va, le geste économe. L'œil aguerri surprenait à coup sûr les coques et les palourdes enfouies. Une pointe des années 65, encore sauvage, aux maisons de pierre et toits ramassés sur des fenêtres étroites. Une terre sans commerce de proximité, le bout du monde pour une enfant de la ville. C'était pourtant là que ma mère hérita d'un bout de terre au milieu de champs de pommes de terre et d'artichauts bleus de fleurs montées. L'été suivant, mes parents y installèrent une caravane bardée d'un auvent de couleur qui servait à la fois de salon, salle à manger par temps maussade, et de chambres à coucher pour les enfants. Mon père fabriqua un plancher de bois pour nous préserver des fourmis et des araignées rouges. Ma mère y installa un transat où elle tricotait ou faisait du canevas. Les pulls et les gilets jaillissaient de ses aiguilles à la vitesse de la lumière. Elle avait toujours un ouvrage en cours. Nous vivions à l'heure solaire, levés et couchés tôt. Après le souper, nous jouions aux osselets et aux diabolos. Des concours festifs au prix minimaliste d'un bonbon autour d'une camomille avec notre père. Ma mère gardait ses distances avec la joie. Elle semblait toujours ailleurs. Le soir, nous la perdions dans un livre. Son visage disparaissait dans les pages et nous éloignait d'elle un peu plus. Le bal des chauves-souris gobant les moustiques attirés par la lanterne terminait la soirée. Le terrain était bordé de pins maritimes. Le vent bruissait dans les branches et décrochait les pommes de pin que nous amassions dans un cajot près du bidon découpé par mon père et sur lequel il avait posé une clayette de frigo, sorte de brasero de fortune. L'odeur de la viande grillée et des pommes de terre cuites sous la braise faisait palpiter le vent facétieux de mer ou de terre, parfois les deux quand ils se disputaient, faisant danser les températures dans une gigue infernale de chapeaux, impaires, bottes ou sandales. Un véritable casse-tête de sac à dos lorsque nous crapahutions dans les sentiers. Parfois le thermomètre montait en flèche, le paysage se dissolvait dans une brume de chaleur, devenant morne plaine, sorte de désert de sens et de raison. Nos corps nous descendaient jusqu'à notre grève citadelle, accessible par une corde. Les cormorans rusaient dans le ciel opalin. La chaleur torride nous entraînait dans l'eau, chaussée de sandales en plastique, pas de cul sec sur la grève de galets chauffée à blanc. Nous étions les heureux flibustiers de ce petit bout de terre. L'été 66 a une saveur unique. Ma mère s'en est allée l'hiver suivant. Elle avait survolé nos vies. Le bout de terre est toujours là, grignoté par les touristes gourmands. La liberté est devenue contrainte. J'y reviens de temps en temps. Le vent soufflant dans les haubans cliquette des aiguilles de ma mère.
Soda, diz minha terra sem enclau. Soda, 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 diz minha terra sem enclau. Se vou escrever, muita escrever. Se vou esquecer, muita esquecer. Até dia que vou voltar.
Certaines enfances connaissent le deuil un peu tôt. Quand le plus aimant nous quitte, l'amour déserte le monde, l'existence se transforme en devoir, les jeunes années en long tunnel. On cherche la lumière, on rêve de partir un jour, on part, on revient quelquefois.
Je m'appelle Maxime. Je suis à nouveau devant cette maison que j'ai quittée il y a 40 ans avec fracas. Les volets sont toujours d'un bleu marin. Ce dernier mot me rappelle tout ce que j'ai voulu oublier pendant toutes ces décennies. Étienne, mon père était marin, capitaine dans la marine marchande. J'avais 10 ans quand ma mère nous a quittés. Ma mère, une angélique blonde et douce que mon père amoureux avait épousée à 45 ans. Ninine, le nom prononcé dès mes premiers balbutiements lui est resté. Elle me cédait à tout, souriante, toute douceur et amour pour son petit. Mon père, lui, se montrait sévère et timide. J'avais peur de lui quand il rentrait de ses longs voyages et cela l'exaspérait. Et tout a changé à la disparition de Ninine. Mon père a dû renoncer à son métier et à ses voyages, sa passion, pour s'occuper de moi, son fils unique. Mon père a trouvé un poste dans les bureaux de la compagnie et il a décidé de faire de moi un homme solide. Il disait aux voisines qui voulaient me cajoler un peu, « Oh, pas comme Ninine !» J'ai obéi. J'ai travaillé dur à l'école. J'ai quand même voulu jouer d'un instrument. Il y a consenti, bien que l'art soit à ses yeux du temps perdu. Je suis plus tard devenu ingénieur des ponts et chaussées. Mon diplôme en poche, j'ai attendu un sourire, qu'il me serre enfin dans ses bras. Rien. J'avais 20 ans, je suis parti et je ne l'ai jamais revu. Ni l'un ni l'autre n'a cherché à se retrouver. Nous avions vécu côte à côte sans nous rencontrer. Me voilà maintenant devant cette maison au jardinet bien entretenu, au volet bleu marin. Père est mort, il avait 85 ans. Pour régler ses affaires et son héritage, j'ai quitté le pays d'Afrique où j'étais occupé à construire des routes. Et je suis rentré avec l'idée de vendre cette maison. J'y ai de mauvais souvenirs. Mon père n'était pour moi que dureté et travail. Je ne l'ai jamais vu se détendre. Sans doute, il méprisait les arts vers lesquels ma sensibilité étouffée me poussait. Il m'avait bien laissé apprendre le basson au conservatoire. Il m'avait acheté un instrument d'excellence, mais n'était jamais venu m'écouter. J'avais mon domaine, lui le sien. Les tâches quotidiennes étaient assumées par une femme de journée efficace, vertueuse, mais sans douceur à mon grand désespoir de minot. En attendant le notaire qui ne viendra qu'en fin d'après-midi, je découvre cette maison dont je connais si peu. Une maison sans étage, une longère, avec toutes les pièces en enfilade. Mon père possédait une serre et un appentis dans le potager à l'arrière. Il aimait y jardiner seul. Une vague odeur de térébenthine me surprend dès l'entrée. En parcourant ce lieu, j'ai l'impression que l'homme qui y vivait il y a encore quelques jours n'est pas mon père. Il y a des livres sur les étagères, des dessins au fusain sur la table de la pièce principale, comme un laisser-aller, on verra demain. J'ose pénétrer dans leur chambre, sanctuaire réservé, et quand j'osais en ouvrir la porte, je la refermais aussitôt. Rien n'a changé. Si, il y a sur les murs quelques toiles éclatantes. Énorme surprise. Les deux pièces n'en font plus qu'une. Immense, d'où vient l'odeur de térébenthine. Une grande baie vitrée donnant sur le potager. C'est un atelier où se côtoient des chevalets de tailles différentes, des tréteaux où reposent des tubes de toutes sortes de peintures, des couleurs chatoyantes, mais aussi des blancs et des noirs. Des pinceaux neufs, usés, dans des mixtures inimaginables, et tout autour de cet atelier, des tableaux inachevés, abstraits, éclatants de couleurs. Comme si le peintre attendait un espoir, une venue pour y mettre la touche finale. Je les ai toutes explorées, ces toiles, une à une. J'y ai découvert, jamais au même endroit, jamais de la même couleur, un petit prince qui tient entre ses bras un basson prêt à jouer une mélodie. Ce petit prince et son instrument me crèvent le cœur. Voilà pourquoi je suis resté dans la maison au volet d'un bleu marin. Le notaire est là, je ne vends plus. Comme il vous plaira, venez signer les papiers de la succession. Je vous remettrai le testament et une lettre que votre père m'a remise pour vous. Je vous donne aussi l'adresse des pompes funèbres qui ont fait le nécessaire. Au revoir, monsieur Marin.
Les ateliers des Valouna.
Empreintes et blessures d'enfance. Est-ce que l'on oublie les blessures de l'enfance? Il faut presque une vie, quelquefois, pour se débarrasser de ces empreintes, pour se défaire des images que des miroirs déformants vous ont renvoyées.
Ooh. Je suis moi. Je suis né dans les années 60. Je suis un jeune garçon au regard profond et un enfant à moitié désiré, comme me diront beaucoup plus tard mes frères et sœurs. Certes, sur le ton de la plaisanterie. Je le ressens quand je suis jeune, car je ne me vois pas comme les autres. Je suis le dernier des grandes familles campagnardes de leurs pichons. Les mots tendres, les compliments, les encouragements ne sont jamais exprimés, et pourtant ils atteignent directement le cœur de l'enfant. Élevé par ma grande sœur aînée, c'est la charge laissée par mes parents. J'ai entendu pendant les veillées les mots de ma mère. « Il va bien le petit dernier, il s'occupe tout seul. » Le reflet que j'ai de moi-même n'est pas tellement joyeux. Je me sens triste, seul en permanence, malgré la ribambelle de mômes qui remplissent la maisonnée. Les différences d'âge m'éloignent chaque jour de mes frères et sœurs. Le vide que je ressens en dedans grandit en même temps que mes années passent. C'est si difficile à expliquer que je me tais. La plaie que j'ai sur le cœur commence à saigner. Je suis un adolescent rempli de doutes. Pourtant, j'ai vite compris que lorsque je fais le clown, les gens rient. Je me dis dans mon fort intérieur, ils m'aiment. C'est un terme si peu employé et si difficile à dire dans ma campagne. Je ne peux pas vivre sans amour, et quand je me retrouve seul, je pleure. Jeune adulte, j'ai choisi un métier de représentation. J'ai voulu être acteur de théâtre. J'apprends à respirer. Je suis prêt à rire, à pleurer, à être triste ou sombre en fonction des rôles. Je m'y plais, c'est certain. Le besoin de vivre dans le regard des autres a toujours été ma quête. À ce moment-là, je vis mes derniers instants d'insouciance. Je suis un autre individu dans cette vie parisienne trépidante et sans saveur. Je suis dépourvu de sentiments sincères. Mes relations amoureuses sont plates et sans lendemain. L'amour, ça fait trop mal, et je n'aime pas avoir mal au cœur. Une nuit, sous mon toit brûlant d'incertitude, je me sens sale. Sous la douche, je parle à haute voix pour expier mon mal-être du moment. Plus fort que mes vertiges, ma rage me terrifie. Cela ne suffit pas à me nettoyer. La tête me tourne. Mes idées volent et virevoltent comme des feuilles mortes qui planent, retombent au sol et planent à nouveau dans ces courants d'air bien froids entre ces grands immeubles. Mes idées funestes me minent petit à petit. La mort approche, ma mort. L'homme que je suis devenu est blessé, fatigué, usé. Je n'ai que 30 ans. Pourtant, inlassablement, chaque week-end, je saute dans mon premier train qui me ramène vers ma campagne natale. Je revois mes parents, mes amis, mes soirées sont remplies d'échanges sains et sans complaisance. Je me sens heureux, mais fatigué. Dans le train de retour le dimanche soir, je me retrouve à nouveau seul avec mes souvenirs, mes incertitudes. Dans ma chambre vétuste sous les toits du 20e arrondissement, je me laisse tomber sur mon lit. Je reste à long moment immobile, sans rien dire. Je regarde autour de moi, avec mes yeux mi-clos, comme quelqu'un qui écoute. Je n'entends rien, et je ne vois que mes compagnons de la semaine. Mon matelas, mon réveil avec son tic-tac infernal, mes livres de théâtreux, Cocteau, Corneille, Céline. Et dans un coin de la pièce au mur nu, ma valise prête à repartir, avec mes prochains billets de train aller-retour sur le dessus. Les bienfaits du week-end s'estompent en deux jours. Je reprends mes habitudes, et s'ensuit une dépression. Et oui, le mot est lâché, difficile à entendre. Chaque nuit, les idées noires reviennent me hanter, comme un mauvais rêve qu'on essaie d'oublier. Tout s'accélère cette fois-ci. J'en parle à mon confident, et en l'écoutant sans savoir vraiment pourquoi, j'ai consulté le médecin de famille en rentrant le week-end suivant. Alarmé, il m'a envoyé directement à l'hôpital psychiatrique, à Saint-James pour les fous, comme disent tous les voisins et membres de ma famille. Dans cet établissement, tous les soignants sont à l'écoute et agissent. Intérieurement, je suis au supplice, comme si je chemine sur un étroit sentier de crête bordée de précipices. Mon cœur bat très fort. Même si je suis interné pour mon bien, mon amour-propre est blessé. Mais devant tant de déchéances et de culpabilité, j'ai compris ma raison de vivre, d'exister. Mon passage dans ce lieu a été une vraie leçon de vie. À partir de ce moment, tout a changé. La thérapie a fonctionné. Le gris a remplacé le noir. Il a continué de pâlir de plus en plus au fil du temps. Je suis maintenant fier de moi-même. Je repense souvent à celui que j'ai été auparavant. J'ai enfin trouvé l'amour que je cherche. Sans toutes ces tempêtes, je ne serais pas devenu père et si heureux de l'être. Je suis passé à travers les orages, ce n'est pas rien. J'ai retrouvé un équilibre. La vie est maintenant plus belle. Aujourd'hui, je me suis engagé dans une association de quartier. Chaque soir, après mon travail, je discute avec des hommes et des femmes blessés, perdus. Je suis tombé à plusieurs reprises. Ce n'est pas pour autant que je ne peux pas vous montrer un marché. Au contraire, je saurai guider vos pas pour que vous ne perdiez jamais de vue le soleil. Il viendra.
Si, on va.
Les secrets ne meurtrissent pas l'enfance comme le font les coups. Non, ils sèment vide et frustration, distillent angoisses incompréhensibles et espoirs déraisonnables. Le mensonge est un voile noir qui jette des ombres partout. L'enfant devine en sourdine. L'ado, lui, cherche et se cabre. Il fouille et fouine. Il veut savoir. Il enfonce les portes qu'on ne lui ouvre pas.
Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
Rendez-vous. Elle est tellement heureuse, elle va le voir. Depuis des années, elle attend ce jour. Mais maintenant, elle a peur. Peur d'être déçue. Peur de le trouver moche, ridicule, pas sympa. Peur que lui aussi la trouve moche, ridicule, pas sympa. Maintenant, elle a envie de partir. Pourquoi avoir tant insisté pour le connaître? Cela va bouleverser sa vie. Elle était bien comme ça avant. Tranquille, finalement. Même s'il y avait un vide quelque part, même s'il lui manquait quelque chose. Mais ce désir de le voir, cette curiosité, c'était autre chose que simplement de la curiosité. Quoi donc? La volonté de savoir, de voir, de le voir, lui, en chair et en os, lui parler, l'observer, pour le juger, c'est sûr, elle va le juger. Il ne sera jamais à la hauteur, forcément. Parce que c'est lui qui est parti. C'est de sa faute. Il aurait dû s'en soucier, il savait. Pourquoi n'a-t-il pas essayé d'en apprendre plus? Tenter de la voir au moins une fois? Pourquoi n'a-t-il pas eu cette curiosité? Est-ce la faute de sa mère? Elle aurait dû le lui présenter, insister pour qu'il la voie au moins une fois. Il l'aurait aimé tout de suite, il serait resté pour s'en occuper. Il l'aurait aidé, protégé, aimé, peut-être. Mais voilà, c'est la faute de sa mère. C'est ça, après tout. C'est sa mère qui a tout gâché. Elle l'a gardé pour elle toute seule, fière et seule, possessive. Quel orgueil. Elle ne lui a laissé aucune chance. Et voilà que maintenant elle accuse sa mère. Maintenant elle se met à détester sa mère. Maintenant elle déteste tout le monde. Lui, elle, les autres, elle se déteste aussi. D'ailleurs, elle voudrait n'avoir jamais existé. Elle aurait dû ne jamais exister, ne pas être née, ne pas être conçue. C'est ça la vérité. C'est qu'elle ne devait pas naître. Jamais. Elle aurait dû mourir avant de naître. Elle pleure. Maintenant, elle veut mourir. Elle ne veut pas le voir. Non, non, sûrement pas le voir. Ce salaud, il n'a jamais donné signe de vie. Il savait, il a tout de suite... Il est parti. Le salaud, le lâche, elle ne veut pas le voir. Surtout pas le voir, jamais. Tant pis pour lui. Elle va repartir. Tout de suite. Elle n'aurait jamais dû venir pour cette visite organisée dans ce petit salon où elle attend. Elle tremble. Les larmes coulent sur ses joues. Elle a mal au ventre. Elle se lève. Elle va s'en aller. Elle va disparaître. Elle marchera des heures, jusqu'à la nuit dans cette ville inconnue. Elle se fera écraser par une voiture. Voilà, ce sera réglé, écrasée, morte. Elle se fera enlever par un tueur. Voilà, un violeur, un assassin. Et voilà, morte encore. Bon débarras. Salut la vie. Adieu, ce fardeau de la vie. Adieu, j'ai eu 15 ans. C'était bien, ça suffit, on arrête tout. Basta la vie. Ce n'était pas pour moi, je suis une erreur de la vie, une erreur dans la vie d'une femme légère et d'un homme irresponsable. Une jeune fille, assise sur un fauteuil, dans un petit salon confortable, pleure à chaudes larmes. Elle regarde l'heure. Rendez-vous dans 10 minutes, Elle a le temps de se reprendre. Bon, j'y suis, j'y reste. Elle renifle, elle se redresse. Elle va aux toilettes, se recoiffe, range son mouchoir, respire longuement, retrouve son calme. C'est moi qui l'ai voulu après tout. C'est moi qui insistais depuis si longtemps. Bon, je vais le voir. Et je vais m'en débarrasser. Voilà. Bonjour monsieur, au revoir monsieur, adieu, sale bonhomme. Le pauvre homme. Il a bien voulu venir lui aussi quand même. Sinon il n'aurait pas répondu. Alors peut-être qu'il n'est pas si dégueulasse que ça. Peut-être qu'il n'a pas pu puisque la mère avait dit non. Elle a rejeté alors qu'il fallait lui demander de rester. C'est tout. Impossible. Ne pas imposer. Elle a expliqué mille fois. Mille fois n'ont pas suffi. Elle voulait le voir en vrai, au moins une fois, finalement. Aujourd'hui, la jeune fille est là, pour ce rendez-vous. Elle sera seule, face à lui, elle sera forte. Elle ne pleure plus. D'ailleurs, si elle tremble, c'est plutôt de joie maintenant. Elle arrive au bout de ses peines. Depuis tant d'années de recherche, elle va être soulagée, libérée de cette obsession. Elle mettra une image réelle sur son visage. Peut-être même qu'il sera vraiment content, qu'il voudra bien la reconnaître et qu'il l'aimera, sa fille. Il est l'heure. Elle entend des pas dans le couloir. Elle se lève, elle ouvre la porte.
Cette émission a été réalisée par Sylvie Bauget, Hélène et Luc à la réalisation technique, Marie-Jeanne à la voix. Extraits musicaux, Césaria Evora, Anne Brun, Prokofiev, Stromae et Aurel San. Mercredi prochain, à 17h30, sera rediffusée l'émission du 31 mars. Une émission spéciale « Semaine contre les discriminations ». Durant cette émission, nous avons pris en pâture le mot « autre ». Vous avez écouté « Été 66 » de Pascal Sibille, lu par Françoise Lavanant. « Le père » de Marie-Claude Soulard, lu par Michel Lannes. « Je suis moi » de Jean-Michel Marchand, lu par lui-même. Et « Rendez-vous » de Cécile Nivet, lue par elle-même.